I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça me plaît pas que mes enfants aient peur. Je m'inquiète, je m'angoisse, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait. Maintenant, je prends un peu de recul, mais je lui ai transmis ma peur.
Même pas peur, ça peut être à double tranchant. C'est, je me coupe de ce que je ressens. Tu sais, avoir peur, ça fait partie de la vie et c'est OK, quoi.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Morgane.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, installez-vous.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Morgane ?
Je suis là pour parler des peurs de mes enfants, qui ont bientôt 16, 13 et 6 ans.
D'accord.
Voilà, mon plus grand s'appelle Arthur, ensuite il y a Roxane et puis Gaspard.
Ok. Quelles peurs ont vos enfants ?
Alors, les peurs de mes enfants, elles sont différentes puisqu'ils sont pas au même, ils n'ont pas le même âge. Mmh. On va commencer par Gaspard, qui en a un peu plus que les autres parce que je pense qu'il est plus petit. Mmh. Il a peur de la mort. Il a peur aussi de vomir. Quand il sent qu'il va vomir, il est complètement paniqué. Il a peur aussi de la séparation. Quand on le laisse chez les papy-mamies, c'est toujours un peu difficile.
Mmh. Ces peurs, du coup, est-ce qu'elles sont récentes ou c'est des peurs qu'il a depuis longtemps ?
Là, c'est les peurs actuelles.
Ouais.
Voilà. Après, avant, il y a eu encore autre chose. Il y avait la peur du noir, qui est encore là, hein, d'ailleurs, puisque je laisse la lumière allumée quand il s'endort dans le couloir. Il y a eu la peur des monstres aussi, à un moment. Mais la mort, oui, c'est récent. Parce qu'on a été affecté par une perte il y a pas longtemps, donc il a pris conscience de la fin de la vie. Le vomi, c'est récent, parce que je pense que c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois, mais il se rend compte que c'est quand même très désagréable, et ça le fait flipper.
Ok, donc il y a déjà eu d'autres peurs, et puis les choses ont évolué, se sont transformées.
Exactement, il y en a certaines qui disparaissent, d'autres qui on s'y habitue, on a trouvé des petites techniques pour y pallier, on va dire. Et puis, il y en a toujours des nouvelles, en fait. On a l'impression que c'est un cycle. Et puis, ça évolue en fonction de l'âge, quoi. Et des situations qu'ils rencontrent au quotidien.
Vos aînés ont eu des peurs similaires à Gaspard ?
Alors, ça remonte à un petit bout de temps, quand même. Il y a eu des choses similaires, ouais, tout à fait. Pas la mort. Il y a eu la séparation, clairement. Parce que je suis séparée du papa. Donc, quand ils quittaient leur papa, ils avaient peur de ne pas le revoir. Puis il y avait la peur des vaccins pour Roxane. Voilà.
Et aujourd'hui, est-ce que l'un et l'autre ont des peurs spécifiques ?
Oui. Roxane, elle flippe des poissons. Donc dès qu'elle est dans la mer et qu'elle ne peut pas voir ce qu'il y a sous ses pieds, c'est la panique. Quand elle sent quelque chose qui la touche, c'est « maman, maman !» Alors qu'elle a 13 ans. Les oiseaux aussi, les pigeons notamment. Donc elle se blottit contre moi en hurlant dans la rue. Et puis là, dernièrement, c'est le viol et le kidnapping. Donc c'est un peu trash, on va dire. Ça la travaille un peu. Ça la travaille un peu, peut-être que parce que maintenant elle est grande, donc elle prend les transports toute seule pour aller au collège. et qu'elle regarde une émission qu'elle ne devrait pas regarder, qui est, j'ai un trou de mémoire, mais globalement, c'est sur les meurtres, les choses comme ça. Donc, je pense que ça éveille la crainte. Donc voilà, elle en a conscience. Quant à Arthur, lui me dit actuellement qu'il a peur de rien. Bon, 16 ans, donc je pense qu'il fait un peu le bonhomme. Mais moi, je sens qu'il a peur du regard des autres. Parce que toujours en train de me demander s'il est beau, s'il est bien habillé, s'il sent bon. Il a peur de l'image qu'il renvoie, à mon avis.
Alors, à part Arthur, Roxane et Gaspard, ils expriment facilement leur peur? Ou est-ce que c'est une question que vous leur posez?
Comment... Ah oui, sans problème, ils l'expriment facilement. Ils vont me dire comme ça, de but en blanc, et si je me faisais violer, et si vous mourrez, tiens, je pense à Gaspard aussi, il a peur dès qu'il se blesse. Donc dès qu'il voit du sang, c'est la panique. Je pense que ça, c'est à cause de moi, parce que j'ai toujours eu peur qu'il se fasse mal. Je suis assez protectrice, on va dire. Donc dès qu'il y a eu une chute, j'avais tendance à... Oh, au secours, il s'est fait mal, est-ce que c'est grave? Et à mon avis, j'ai transmis cette angoisse de la chose grave qui pourrait arriver, quoi. Donc maintenant, dès qu'il y a un petit bibi, un petit rouge, il appelle ça un petit rouge, c'est le stress. Alors que moi, du coup, j'ai essayé de me calmer parce que je me suis rendu compte que c'est moi qui l'avais influencé sur cette angoisse. Maintenant, je prends un peu de recul, mais je lui ai transmis ma peur.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vos enfants expriment leur peur? Alors, vous dites parfois un peu de manière un peu directe, soudaine.
Bah, ça me crée de l'inquiétude, de l'angoisse. Parce que ça ne me plaît pas que mes enfants aient peur. Je voudrais qu'ils soient en confiance, quoi. Je m'inquiète, je m'angoisse, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai loupé, voilà.
Vous avez l'impression que c'est pas normal qu'ils aient des peurs ?
Non, mais j'aimerais qu'ils en aient le moins possible, en fait. Mais je pense que c'est normal, la peur. Je pense que c'est un sentiment ou une émotion normale. C'est plutôt sain, à mon avis, aussi. Mais c'est pas confortable.
Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous avez fait pour accueillir les peurs de vos enfants, voilà, que ça soit plus confortable pour vous? Est-ce que vous avez essayé de faire des choses?
Alors, moi, j'ai la chance d'être suivie, donc je peux verbaliser avec ma psychologue. Donc, on peut échanger sur le sujet. Après, j'en parle aussi à des amis. Ça m'aide d'avoir un retour sur leurs expériences. Et puis, quand je vois que c'est vraiment compliqué, parfois, je vais acheter un petit bouquin, une petite histoire, pour en discuter avec Gaspard, quand on fait la lecture du soir, quand à un moment, c'était le sommeil et qu'il avait peur des monstres, j'avais acheté un petit livre. Ça permet de dédramatiser un petit peu. Voilà.
Donc pour vous, un espace pour en parler et pour accompagner vos enfants d'utiliser des outils de médiation comme des livres.
Exactement.
Par rapport, reprendre des peurs un peu plus spécifiques que vous avez citées, par exemple pour Gaspard, la peur de la mort, voilà, comment vous essayez de l'accompagner là-dedans?
J'emploie les bons termes. Je ne vais pas dire parti. J'essaye d'être transparente avec lui dans le vrai et lui expliquer qu'on va tous mourir. Mais que c'est triste, mais que c'est pas grave.
Est-ce que vous avez l'impression que ça le rassure, ces explications?
Ouais, le fait d'en parler, ça le rassure. Et puis, on en parle souvent en famille, quand on dîne. Donc, tout le monde y va de son petit commentaire. Donc, il voit que c'est un sujet qu'on peut, on peut en parler, c'est pas tabou. Et puis, au final, on finit toujours par rigoler. Parce que lui, avec ses mots d'enfant, il va sortir des trucs improbables. Là, en ce moment, c'est « oui, de toute façon, on va tous se retrouver au paradis ». Donc, je lui dis « oui, si tu crois au paradis, tu peux te dire qu'on va se retrouver au paradis ». Je le laisse aussi dans son imaginaire, mais c'est pas moi qui vais lui dire « on va se retrouver au paradis ».
Vous attendez qu'ils trouvent leurs propres ressources ou solutions pour traverser la peur.
Exactement.
Pour votre fille, Roxane, par rapport à cette peur des oiseaux, des poissons, est-ce que vous avez essayé des choses pour
Alors l'aider? Là, c'est plus compliqué, parce que ce n'est pas des peurs que j'ai eues, moi, petite, par exemple. Et ça me paraît tellement irrationnel, en fait. Donc je lui dis, mais le truc bateau, en fait, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et puis je lui dis, respire. J'essaie de lui donner des petits tips pour que ce soit moins compliqué pour elle. Mais c'est vrai que là, sur les oiseaux, il y a les bananes aussi. Phobie des bananes. Je suis un peu démunie, j'avoue, pour Roxane sur ces sujets-là. Ouais.
C'est un peu vous comprenez pourquoi ce sont les bananes, les oiseaux?
Non, j'arrive pas à comprendre justement. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à l'aider. Ça me paraît fou, en fait. Peut-être que parce que c'est sale, mais quand je lui dis « mais qu'est-ce qui te dégoûte ?»« Je sais pas, j'ai peur, c'est horrible. »
C'est difficile d'aller un peu plus loin que,
ouais.
que ça.
Ouais. Mm. Puis c'est une ado, donc ça parle pas beaucoup.
Vous vous souvenez, vous, d'avoir eu des peurs, enfant?
Oui. Oh oui, j'ai eu peur, ouais. Mm. J'ai encore peur aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais.
Moi, j'avais peur d'être abandonnée. J'avais peur qu'il arrive quelque chose à ma mère. J'avais peur d'être seule.
Est-ce que vous vous souvenez comment vos parents vous ont accompagnée dans vos peurs?
Oui, je pense qu'ils ne m'ont pas beaucoup accompagnée dans mes peurs, justement. Ça n'a pas été entendu. Je n'ai pas été écoutée ou prise au sérieux. Du coup, c'est vrai que c'est des choses que j'ai un peu emmagasinées, ce qui fait que je pense que je suis une adulte assez angoissée, on va dire. J'aurais aimé qu'il y ait eu plus de communication, qu'on puisse verbaliser un peu plus mes craintes et pas forcément être rassurée, mais qu'on me dise c'est normal, voilà.
Est-ce que face à l'expression de ces peurs de vos enfants, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous mettent plus en difficulté?
Non, pas vraiment. Non, je suis contente qu'ils se livrent, en fait. Parfois, j'ai pas la réponse. Donc là, je vais en parler avec ma psychologue parce que j'ai besoin d'un coup de main ou d'une idée pour essayer de démêler ce qui les angoisse et ce qui leur fait peur. Mais je me sens pas, je me sens pas en difficulté. Mais parfois, je les comprends pas. Par rapport à mon grand Arthur, là, qui a peur du regard des autres, il est beau garçon, il s'habille correctement. J'arrive pas à saisir, là encore, pourquoi ça l'interroge à ce point-là, en fait. Mais ça m'angoisse pas plus que ça, quoi. Je me sens pas.
Est-ce que le père de vos enfants a une autre attitude par rapport à cette question des peurs?
Oui, complètement. Il est pas du tout flippé avec les peurs, il est moins à l'écoute, il aurait tendance plutôt à mettre un mouchoir dessus en disant ça rien, ça va passer, on n'en parle pas quoi. Dernièrement, moi j'ai anticipé la peur de Gaspard et pour la première fois il a dormi chez un camarade, un copain de classe. On avait eu un week-end quelques temps avant chez des amis qui avaient un petit garçon et Gaspard avait mis beaucoup, beaucoup de temps à s'endormir. À minuit, il était descendu nous voir, j'arrive pas à dormir, etc. Et donc là, je savais qu'il allait dormir chez un copain, mais sans nous cette fois-ci. Et donc je me suis dit, mais oh là là, si jusqu'à 1h du matin, il s'endort pas, comment ça va se passer? Et donc j'en ai parlé à son papa. Et qui me dit, mais non, ne t'inquiète pas. Et bizarrement, le lendemain, Gaspard vient me voir et me dit, je vais dormir chez Raphaël demain. Et si je ne m'endors pas comme l'autre fois, comment ça va se passer? J'ai trouvé ça drôle parce que moi, j'étais dans l'anticipation. Mon mari n'a rien vu. Et Gaspard, le lendemain, arrive avec cette peur de ne pas s'endormir et que papa-maman ne soit pas là. Et donc, j'étais assez fière parce que je dis à mon mari, tu vois... Je savais. Et il m'a dit, ah ouais, et tout. Je dis, bah oui, tu vois. Il entend une fois qu'il s'est dit, mais ouais, il est moins sensible sur le sujet, quoi. Ouais.
C'est OK pour vous ou... voilà, comment vous gérez ça finalement, presque deux opposés, voilà, dans l'appréhension et puis la gestion et la place que vous donnez l'un et l'autre à cette question des peurs?
Ouais, c'est ok parce que je pense qu'on est complémentaires du coup. Moi j'ai peut-être trop tendance à avoir peur pour mes enfants. Mes enfants sont peut-être un peu trouillards, non, c'est un vilain mot, mais. Et de l'autre côté, il y a Julien qui est assez sûr de lui. Donc ça donne un bon équilibre. Mon mari me rassure et je rassure mes enfants.
Que chacun soit écouté dans ses peurs.
Voilà.
Ok, merci Morgane. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Aurélie Roca.
D'accord.
« Bonjour Aurélie Roca.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute, vous accompagnez depuis plus de 10 ans des parents sur les questions éducatives et les difficultés qu'on rencontre. Vous animez également des groupes autour de la parentalité, vous travaillez en libéral à Puteaux. Bon nombre de parents que j'accompagne, comme Morgane, me parlent des peurs qui animent leurs enfants, de leurs propres peurs aussi, de eux, quand ils étaient enfants. On va voir qu'il y a peut-être un lien entre les deux. En tout cas, ils se sentent souvent démunis, ils savent pas... Voilà, comme Morgane, ils ne savent pas toujours comment gérer et accompagner ces peurs. Tout d'abord, Aurélie, qu'est-ce que c'est que la peur ?
Alors, la peur, c'est une émotion de base. Et comme toutes les émotions, elles sont nécessaires et vitales. Parce que souvent, on entend, il y a les émotions positives, les émotions négatives. Et alors ça, moi, je dis attention, warning, parce que quand on entend négatif, on se dit, on ne devrait pas les ressentir. Or, la peur est une émotion qui est très importante parce que c'est celle qui nous permet vraiment de nous protéger. C'est un signal d'alarme qui fait qu'on ne va pas se mettre en danger. Donc, si je n'ai pas peur, si je suis en haut d'une montagne que je n'ai pas peur, je vais m'approcher du vide, encore du vide, et à un moment donné, je risque de tomber. Et là, c'est dangereux pour moi. Donc, la peur, elle va m'envoyer un signal qui va me dire « Attention, là, warning, recule, ne t'approche pas trop parce que vaut mieux que tu restes en vie d'une certaine façon. » Donc, cette peur, elle est vraiment importante. Donc, elle nous envoie des informations qui fait qu'on va être beaucoup plus vigilant, qu'on va pouvoir réagir, qu'on va pouvoir se mettre en sécurité éventuellement, demander de l'aide, mais c'est un signal, une alerte, sans forcément qu'on ait conscience exactement de qu'est-ce qui peut me mettre en danger, mais en tout cas, c'est que ça nous saisit comme ça et qui fait que derrière, on va réagir. Donc cette peur est très importante et très importante dans le développement de l'enfant aussi.
La peur, parce que vous avez dit, Morgane, votre fille, vous avez utilisé ce mot phobie, la phobie des bananes. Voilà. Quelle est la différence entre la peur et la phobie ?
Alors, une peur, donc, c'est une émotion qui est... commune à tout le monde, hein, y compris aux animaux. La phobie, là, on passe dans quelque chose où ce serait deviendrait irrationnel, quelque chose qu'on... C'est au-delà de la peur, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise plus du tout, en fait. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien, c'est quelque chose qui nous envahit et qui fait que derrière, ça a un impact d'ailleurs dans notre façon de vivre. Que la peur, elle va arriver à certains moments, dans certaines situations, alors que la folie, on va être un peu dans l'anticipation, et là, elle va envahir en général toute notre vie. Donc on va éviter de se mettre dans telle situation, on va éviter de rencontrer telle chose, etc., et c'est celle qui, ça va être un fil conducteur finalement, plutôt que de nous alerter sur un réel danger. Donc la phobie, pour moi, on n'est plus dans le stade de la peur, on n'est plus dans le stade de l'émotion qui est passagère. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est irrationnel et vraiment envahissant.
Vous avez utilisé le mot folie d'ailleurs au lieu de phobie.
Oui.
comme si il y avait
quelque chose d'un peu lié. C'est pas de la folie, mais il y a quelque chose qui est trop en fait. C'est trop, c'est démesuré.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur ?
Alors, comme je disais, cette émotion, en fait, elle est vraiment soudaine. Donc, en gros, il y a deux voies. Il y a la voie rapide, c'est celle qui va faire en sorte que c'est le complexe amygdalien qui va réagir. Donc, ça nous saisit. On ne sait pas pourquoi on a peur. Pouf, ça arrive dans le cerveau. Il y a un signal qui se met en mouvement. Les hormones arrivent et là, on peut réagir. Je marche dans une ruelle sombre. J'entends un bruit derrière moi. Mon corps, il va être saisi, ce qui fait que je vais être beaucoup plus vigilante. Je vais éventuellement pouvoir me dire j'accélère un peu le pas. Je vais faire beaucoup plus attention, quitte à me mettre à courir s'il y a besoin. Et puis après, il y a une voie qui est un peu plus lente, où là, ça va passer par le raisonnement. Et là, en général, c'est j'ai peur dans telle situation, donc ça me saisit au niveau de mon corps, mais derrière, ça va passer par la raison, et ce qui va permettre derrière de dire non, mais en fait, cette peur-là, elle n'a pas de raison d'être, et donc je vais pouvoir passer à autre chose, ou en tout cas aménager pour réagir différemment.
Est-ce qu'il y a un lien entre l'âge et les peurs ? Parce que Morgane nous a dit qu'à chaque âge de ses enfants, il y a eu des peurs un peu spécifiques.
Oui. Alors oui, en effet, les peurs évoluent en fonction des âges. C'est ça qui est très intéressant, vous l'avez bien formulé, Morgane. C'est en fonction de la petite enfance, il va y avoir certaines peurs qui vont être beaucoup plus présentes. Et en grandissant, ça va se transformer, ça va évoluer. Mmh. Et après, c'est encore une fois, les peurs, elles se transforment, elles évoluent, mais tout dépend de la façon dont c'est accompagné et de pouvoir les dépasser, en fait. En fonction des âges... On peut donc en effet évoquer différentes peurs, que ce soit tout dans la petite enfance ou que ce soit beaucoup plus grand. Ou là, d'ailleurs, en plus, ça peut être des peurs, notamment dans le social. J'entendais votre fils par rapport au regard des autres, à l'adolescence, où en effet, les pères sont très importantes, le regard, etc. Donc ça peut aussi se matérialiser à l'adolescence. Ouais.
En tout cas, dans ce que vous dites, Aurélie, j'entends que finalement, les peurs font vraiment partie du développement de l'enfant et sont même un signe de son bon développement.
Voilà, ah, complètement.
L'enfant vit des conflits et donc a des peurs et que c'est important presque ces peurs, qu'il y ait des peurs. L'enfant qui n'a pas peur, qui ne vit aucune peur, ça serait inquiétant.
Tout à fait. Mais tout à fait. C'est les peurs, elles sont là pour aussi nous permettre de sentir les limites et de nous permettre, si elles sont accompagnées, nous permettre de trouver les ressources en nous pour pouvoir avancer, les dépasser, et dans l'âge adulte, de pouvoir justement soi-même trouver les ressources pour pouvoir avancer, dépasser certaines peurs, et ainsi de suite. Donc si il n'y avait pas de peur, je crois qu'on se mettrait régulièrement très en danger, en fait. Le signal, il fonctionnerait pas bien. Et d'ailleurs, ce que je peux constater parfois, c'est que pour certaines personnes qui ont souvent entendu « c'est pas grave, c'est rien, mais non, n'aie pas peur », bien souvent, au bout d'un moment, en fait, le signal d'alarme ne fonctionne plus. Ce qui fait qu'on peut finir par se mettre en danger parce qu'on n'a pas conscience que qu'on a là un petit voyant rouge qui se met en mouvement, on le voit pas, on l'entend pas, et on peut se mettre en danger dans certaines situations.
Du coup, en fonction des âges des enfants, alors plus il va être petit, voilà, est-ce que vous pourriez un peu nous lister les différentes peurs des enfants en fonction de leurs âges?
Alors, on va dire vraiment petit, entre 0 et 6 mois, c'est la peur souvent des pertes d'appui. Donc le bébé, lui, il a besoin de se sentir vraiment soutenu. C'est l'environnement, j'ai envie de dire, est vaste. Et lui a été contenu pendant, on va dire, plusieurs mois dans un environnement où il avait vraiment, il pouvait sentir l'espace. Donc c'est important, voilà, pour les bébés de se sentir vraiment soutenu, la sensation de déséquilibre. D'ailleurs, il y a le réflexe de Moreau où on voit les bébés qui essayent de s'agripper. Donc, et on voit chez les petits mammifères, cette capacité à s'agripper à leur maman pour pouvoir tenir, pour pouvoir avancer avec eux, avec elles, etc. Les bruits forts aussi. Donc ça aussi, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas connu, puisqu'encore une fois, dans l'utérus, le bébé, il a tout tétanisé, et y compris les bruits. Donc forcément, quand il se retrouve à l'air libre, les bruits forts, pour lui, c'est qu'est-ce que c'est, en fait. Donc cette peur, elle peut, pour lui, instinctivement dire « danger ». Donc là, c'est important de pouvoir...
En tout cas, c'est intéressant parce qu'on ne parle jamais des peurs des tout-petits.
Oui.
On parle peu de cette émotion chez des bébés.
S'ils ne la verbalisent pas, finalement.
En effet, donc l'importance de l'avoir, en effet, à l'esprit. Voilà, que cette peur-là aussi, en tout cas, cette émotion-là est présente.
Est présente, oui, tout à fait. Après, donc autour de, à partir de 7 ou 12, jusqu'à à peu près un an, là, on rentre dans une peur où l'enfant donc, a un peu plus conscience de son environnement, de l'autre, etc. Donc, il va plutôt avoir peur du visage des inconnus, des gens qu'il ne connaît pas, donc l'étranger. Donc, après, il y a autour de 9 mois, l'angoisse de séparation. Donc, en effet, parce que là, il y a cette capacité à percevoir la différence. Et donc, avec les nouvelles personnes qui arrivent dans son environnement, d'être dans cette inquiétude, ou en tout cas cette peur de se dire « je ne connais pas cette personne ».
Qui est une étape souvent un peu éprouvante pour les parents, mais, voilà, mais l'importance de les rassurer que c'est normal et que c'est important que l'enfant vive cette étape-là.
C'est ça.
Et d'accompagner. Et que c'est, souvent, les mamans me disent « je vais aux toilettes avec mon enfant ». Je leur dis « mais non, l'importance quand même de fermer la porte et on peut continuer de se parler ». C'est ce qui va aider l'enfant à dépasser sa peur.
Oui. De maintenir qu'il apprenne qu'on le c'est pas parce qu'on n'est pas de visu que le lien est toujours là et que il y a quelque chose qui dure en fait et qui perdure. Donc ça c'est important. Et pareil autour de 7-12 mois, il y a aussi les objets qui peuvent apparaître brusquement. Donc tout d'un coup, il y a les boîtes où on tourne une manivelle et puis il y a le pantin qui sort de la boîte. Et donc ça aussi pareil. Alors à la fois c'est cet objet, je trouve, qui est très intéressant parce que c'est une façon aussi d'apprendre et d'apprivoiser, de se dire oh là, il y a ce truc qui apparaît, mais finalement il n'y a pas de danger pour moi. Mais voilà, donc c'est important d'amener les choses, de verbaliser aussi auprès de l'enfant, avant de faire rentrer soit une personne, soit un objet dans son champ de vision qu'il n'avait pas prévu. Autour des 1 an, donc on a toujours cette question de la séparation.
Qui va perdurer un peu.
Voilà, ça c'est la séparation.
Ce que vous disiez aussi, Morgane, par rapport à Gaspard.
Après, elle évolue, la séparation évolue, parce que ça ne va pas être les mêmes choses à chaque fois exactement. Mais la séparation, ça fait partie de la vie, et donc c'est un apprentissage, et donc ça dure, avec parfois des moments où l'enfant n'avait pas de soucis pour aller dormir chez un copain, et puis du jour au lendemain, tout d'un coup, c'est plus possible. Et donc là, bon, encore une fois, c'est d'accepter si on met un mot entre guillemets, cette régression. Il y a peut-être quelque chose à revisiter pour cet enfant, pour aller vérifier sa sécurité, etc. Et ensuite de l'accompagner pour qu'il puisse de nouveau en sécurité repartir chez un copain, chez une copine, chez les grands-parents, etc. Pour revenir autour des 1 an, il y a aussi donc les histoires des bruits. comme l'aspirateur, les téléphones.
Les bruits forts, intenses, voilà, du robot.
Voilà, qui sont un peu, même pour nous, j'ai envie de dire, adultes, parfois pas très agréables à l'oreille. Mais pour un enfant qui n'est peut-être pas en train de... qui n'est pas concentré sur l'aspirateur, tout d'un coup, ce bruit, ça peut être très effrayant de dire qu'est-ce que c'est que ce bruit. Et en même temps, encore une fois, cette peur, elle est intéressante parce que un petit animal, si on revient côté mammifère, hein, c'est l'animal, quand il entend un bruit, un petit peu l'inquiéter, etc., il va se mettre à courir en se disant « c'est danger pour moi, vaut mieux que je m'en aille ». Et donc, instinctivement, l'être humain, c'est la même chose. Donc là, c'est important aussi, éventuellement, pareil, de prévenir, de dire « je vais passer l'aspirateur, est-ce que tu vas appuyer sur le bouton ?» Enfin, voilà, que l'enfant puisse associer ce bruit à l'objet ou...
Et de le faire interagir.
Interagir, oui. Entre, si on continue au niveau des âges, entre 18 mois et 2 ans, donc on reste toujours avec ces bruits forts, hein, il y a les animaux qui rentrent aussi là, qui vont rentrer en ligne de compte, et surtout en plus si l'enfant n'est pas au contact d'animal régulièrement, si vous avez un chat, un chien, etc., ou dans son environnement, j'ai envie de dire dans la rue, s'il n'en voit pas beaucoup, etc., c'est un nouvel être à intégrer dans son environnement. Donc si j'ai pas l'habitude, première chose qui va le réflexe, c'est j'ai peur, danger pour moi. Donc là aussi, c'est pareil à accompagner. Après, je pense qu'un peu plus tard, on verra les façons d'accompagner justement dans ces situations les enfants. La peur du noir qui apparaît autour de ces âges-là. Le noir, c'est là où on va dire on ne sait pas trop ce qui peut se passer en fait. Donc autant avant, il n'avait pas conscience, c'est la nuit, on dort, etc. Autant autour de 2 ans, l'imagination commence à se mettre en route. Et donc là... Et ben là, il peut imaginer des choses. Il y a la séparation aussi autour de ce moment du coucher. Donc c'est voilà, c'est une peur qui peut apparaître aussi. Bien évidemment, ce que vous disiez, Morgane, c'est que vous laissez la lumière allumée. Et donc voilà, ça c'est important d'écouter ce dont son enfant a besoin pour le rassurer. Donc il y a aussi les monstres, les créatures. Donc ça va aussi dans cette
peur du loup.
La peur du loup. Voilà, tout à fait.
Sous le lit.
Sous le lit, dans les placards, sur la chaise où il y a un tas de vêtements. Donc c'est vraiment voilà, c'est toutes ces ombres où tout d'un coup qui peuvent prendre vie d'une certaine façon dans l'imaginaire de dans l'imagination de l'enfant qu'il faut rassurer et prendre en compte. Et pas minimiser encore une fois. Donc autour de 18 mois, 2 ans. Après 3-4 ans, toujours l'obscurité. Donc pareil, il y a des peurs qui vont durer plusieurs années. Hein. Donc l'obscurité, la séparation, les animaux en général aussi, ça dure quelques temps. Le temps que l'enfant se sente en confiance. Donc autour de 3-4 ans, on est toujours à peu près sur les mêmes peurs. Autour de 5 ans, là, l'enfant rentre dans une nouvelle dimension. C'est, alors ce qu'on peut entendre, c'est les gens méchants. Ou en tout cas l'inconnu. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle peur qui apparaît. Cette peur, elle est importante. Et moi, j'inviterais à faire attention sur le terme qu'on emploie, de dire les gens méchants. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de méchant? Moi, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un de méchant. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une tête bizarre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des gros yeux? Je ne sais pas ce que c'est quelqu'un de méchant. Et donc, forcément, si on reste dans cette globalité... Pour l'enfant, c'est trop vaste. Et donc, tout le monde peut être méchant, en fait. Je ne sais plus, c'est qui méchant, pas méchant.
Et puis, c'est un âge aussi où on dit aux enfants de ne pas parler aux inconnus. Donc, il y a quelque chose, on induit aussi quelque chose d'une peur de l'autre.
Exactement. Et donc là, moi, j'en reviens vraiment à cette capacité qu'ont les enfants à sentir. Et spontanément, un enfant va nous dire, j'ai pas envie de m'approcher de cette personne, je ne veux pas lui dire bonjour. Et donc, c'est aussi important de respecter cette intuition qu'il peut avoir. Parce que plus tard, c'est ce qui nous permettra de dire « je ne me sens pas à l'aise avec cette personne et vaut mieux que je me sauve ». Et donc là, c'est important de le valider. Et après, c'est de sortir donc, dans cette étiquette de méchant. Moi, je dirais plutôt, il y a des gens qui peuvent te faire peur. Tu ne te sens pas peut-être rassuré avec cette personne. De vraiment mettre des mots sur ce qu'il peut ressentir plutôt que de la qualifier de méchante ou gentille. D'accord. J'ajouterais même au niveau de cette étiquette méchante, c'est l'inconnu, c'est... Pareil, on ne sait pas qui c'est. Donc, voilà, fais confiance à ce que tu sens. Moi, en tant que parent, tu ne te sens pas, elle te fait peur, cette personne. Ok, est-ce que... pour le moment, je respecte, tu peux rester un petit peu loin d'elle. Moi, je la connais, j'ai envie de discuter avec elle, etc. Et puis, laisser l'enfant aussi faire s'il se sent d'aller vers cette personne, d'aller à sa rencontre ou pas, et de lui laisser ce temps qui est important.
Sans forcer.
Sans forcer, exactement. Ce temps d'adaptation. Les enfants sont, dans l'ensemble, très observateurs. Ils ont besoin d'un temps de rencontre qu'on peut avoir tendance à squeezer de temps en temps en tant qu'adulte en disant « dis bonjour, fais un bisou », etc. Alors qu'en fait, l'enfant, parfois, il a besoin vraiment vraiment de percevoir, de sentir son environnement, de sentir les gens pour ensuite rentrer dans la rencontre. Et ça, c'est important de vraiment le respecter. Ce n'est pas une question de timidité. Parce qu'on a cette étiquette qui débarque en général, c'est mon enfant est timide. Non, peut-être qu'il a besoin de plus de temps pour se sentir en confiance, pour aller justement dans la relation et de façon juste pour lui. Prendre la température. Autour de 6 ans, donc là pareil, on continue donc la séparation. Vous parliez de dormir dans sa chambre avec la lumière, etc. Mais il y a des nouvelles choses qui apparaissent, c'est les êtres surnaturels, ou en tout cas cette question autour de la magie, des monstres. Enfin, ça peut, en grandissant, on peut découvrir d'autres peurs. Le côté surnaturel, c'est les fantômes.
Les vampires.
Les vampires, etc. Donc ça aussi, là, on ouvre une autre porte. Et donc avec tout ce que ça représente, d'un peu flippant quand même. On peut pas dire que...
Oui, les morts vivants.
Voilà, les zombies. c'est ça. C'est, donc c'est voilà, grande imagination à cette période-là. Encore une fois, c'est d'inviter l'enfant à ressentir ses ressources. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire face à un fantôme, tu le chasses, tu souffles dessus, de trouver des qui se sentent mettre à bord d'une certaine façon pour pouvoir se dire que finalement, même s'il rencontre un zombie, c'est pas très grave parce qu'il lui lancera de l'ail à la figure, par exemple. Il y a le tonnerre et les éclairs aussi. Et donc pareil, tonnerre, éclair, ça aussi c'est intéressant de parler de qu'est-ce que c'est en fait, à quoi ça correspond concrètement. Donc c'est lié au ciel, les nuages, l'électricité dans l'air. Enfin, je suis pas spécialiste de ça, mais enfin, en tout cas, de pas hésiter à en parler pour que pareil, ça remette, on remette dans un contexte et de se dire que c'est pas juste un bruit.
Oui, donner du sens.
Donner du sens, oui. Vers 7 ans. 7-8 ans, en général, moi, ce que je vois souvent, c'est que les enfants, à ce moment-là, les parents les intègrent un peu plus dans... Et avec l'école aussi, ils parlent beaucoup plus, mais de tout ce qui peut se passer dans le monde et au niveau de la société, etc. Donc là, tout d'un coup, ça ouvre la porte vers, on va dire, l'extérieur et la société, etc. Et il peut y avoir des peurs par rapport à certains événements, par rapport à certaines situations. Donc... voilà, c'est aussi faire attention. Je pense que c'est beaucoup plus juste de parler de ce qui peut se passer dans la société et dans le monde avec son enfant, s'il le manifeste, s'il en a besoin. Mais moi, par contre, je mets un interdit au niveau des informations télévisuelles. Ça, c'est niet. Okay. Parce qu'ils ne sont pas prêts à emmagasiner ce type d'informations. Ils n'ont pas le recul nécessaire. Bah, ça peut générer des peurs, là, qu'on peut leur éviter d'une certaine façon.
Oui, puis 7 ans, c'est quand même l'âge de raison, un âge cognitivement où ils comprennent, où ils perçoivent beaucoup plus de choses de leur environnement. Oui. Là, je pense aux derniers événements qu'on a vécu, que ça soit la Covid, que ça soit les attentats. Oui. Donc, en effet, ils vont être extrêmement sensibles et comprendre plein de choses. Oui. Donc, en effet, de les protéger des images qui peuvent être très violentes et passer en boucle aussi à la télévision.
Ça. Exactement. En tout cas, on peut en parler, mais sauf si l'enfant vraiment a besoin d'en parler souvent, et dans ces cas-là, on prend ça comme un exutoire, mais dans la mesure du possible, c'est on en parle, on accueille, on met des mots simples et, j'ai envie de dire, plutôt légers. Et après, l'idée, c'est de passer à autre chose pour que l'enfant se focalise pas sur l'événement et que ça devienne un traumatisme aussi, quelque part.
Bien sûr. Plus l'enfant grandit, et vous nous le disiez, Morgane, avec les peurs de votre fils aîné, plus les peurs vont être aussi la question de l'image de soi, dans le rapport aux autres, social.
Oui, alors au-delà de 8-9 ans, là, et jusqu'à l'adolescence, et je pense qu'on peut même remonter maintenant encore plus loin. Alors déjà au niveau de la scolarité, moi je trouve que beaucoup d'enfants expriment beaucoup de peur par rapport au fait de rater, de pas réussir, les devoirs, de se faire punir. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment... un stress qui est clairement là. Donc là, c'est de s'interroger en se disant, moi en tant que parent, est-ce que je mets une pression sans m'en rendre compte? Est-ce que je peux permettre mon enfant de relativiser, lui dire que l'école est là pour l'aider à apprendre et qu'en apprenant, on apprend en faisant des erreurs. Donc, de remettre aussi l'erreur au centre comme un apprentissage, ce qui permet que derrière, il y a moins de pression. Parce que si on se trompe, si apprendre, c'est se tromper, finalement, je peux me tromper, c'est pas très grave.
Oui, au-delà de l'erreur, peut-être parler aussi d'expérience, d'expérimentation, qui n'a pas la même connotation.
Oui, donc ça, c'est intéressant. intéressant, les résultats scolaires. Donc, on est vraiment là, à ce moment-là, moi, je vois sur... Il y a tout un champ autour de la réussite qui devient très fort autour de ces âges-là. C'est, y a la prise de conscience aussi de la suite, le collège, le lycée, les études. Enfin, c'est comme si tout d'un coup, il y avait un champ qui s'ouvrait. Alors, en effet, l'enfant, il se retrouve un peu là, alors que lui, il est dans juste découvrir. Et tout d'un coup, il y a une... C'est tout ça et je vais devoir aller jusque-là, mais je sais pas comment. Il faut que je réussisse, il faut que j'ai des bonnes notes, parce que si j'ai pas des bonnes notes, alors je vais peut-être pas réussir, ou je pourrais pas aller dans tel collège, enfin.
Ou
je serais punie, parce que voilà, j'ai eu des mauvaises notes. Chaque parent à s'interroger justement aussi de lui, de qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce que c'est que la réussite pour lui, pour permettre à son enfant aussi de le responsabiliser d'une certaine façon, en lui disant, mais tu sais, c'est toi, t'as les capacités et tu feras voilà, ce qui te semble juste pour toi et moi je suis là pour t'accompagner. Enfin voilà, ce qui permet à l'enfant, le responsabilisant, de reprendre un peu le lead plutôt que de subir les devoirs, les contrôles, etc., etc. Donc ça, c'est...
Voilà, oui, en tout cas, face à toutes ces peurs, c'est comment le parent va accompagner l'enfant pour retrouver une certaine forme de contrôle sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe, et qu'à partir du moment où l'enfant a le sentiment d'avoir un certain contrôle, ou une solution, ou un exutoire, bah, il va pouvoir traverser la peur plus tranquillement.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Dans toutes ces peurs, alors en effet, il y a vraiment des peurs qui sont très courantes. Hein. Là, je pense à la question des monstres, des cauchemars, du noir, du loup. Hein. Oui. Tout ça, c'est voilà, un lot de peurs
communes.
Comment, voilà, face à ces peurs-là plus spécifiques, comment le parent peut faire ? Morgane nous disait voilà, que vous laissiez la lumière allumée. Là, je pense qu'il y a les veilleuses.
Exactement, oui.
Moi, la veilleuse, ça n'a pas suffi.
Oui.
Donc, c'était vraiment la lumière. Et au départ, je l'ai mise. Et puis après, je me suis dit, on va l'arrêter. Et en fait, ça fait 3 ans que je maintiens la lumière parce qu'il en a besoin.
Vous pouvez même... Enfin, c'est très juste. Après, vous pouvez aussi, de temps en temps, lui dire, est-ce que ce soir, tu as encore besoin de la lumière ? Est-ce que... voilà, le questionner vraiment pour qu'il puisse... Parce que parfois, ça devient même un automatisme pour l'enfant, si la lumière, elle est allumée, etc. Et puis, il se pose même plus la question de savoir si on peut l'éteindre ou pas. Et donc, parfois, c'est intéressant de lui demander, de lui dire, est-ce que là, tu penses que tu as encore besoin de la lumière ce soir ?
Tout à fait.
Est-ce que tu as besoin de la lumière toute la nuit ? Ou est-ce qu'à un moment donné, je peux l'éteindre ? Est-ce que, voilà, de voir avec lui, et pour que lui aussi se dise, tiens, mais oui, pourquoi j'ai encore besoin de la lumière ?
Ouais, on peut remettre en question l'habitude pour voir si ça bouge, ça peut bouger.
Exactement.
D'accord.
Est-ce que tu veux autre chose ? Ça peut être la veilleuse. Enfin, voilà, c'est de pouvoir que l'enfant puisse sentir voilà, que là, il a la maîtrise de ce qui se joue, de ce qui se passe, et qu'il peut expérimenter, de dire, bah oui, là, j'ai pas besoin. En fait, non, j'avais encore besoin, mais là, je sens que j'ai vraiment plus besoin, et à ce moment-là, c'est bon. Donc, c'est lui rendre voilà, la possibilité, j'ai envie de dire, les rênes, d'une certaine façon, de ses peurs, et de comment il peut gérer, et la créativité qu'il peut mettre pour la dépasser d'une certaine façon.
Par rapport à la peur du loup ou des monstres, alors là, je me souviens d'une maman qui me disait, bah, j'ai enlevé toutes les histoires avec les loups et les monstres, comme ça, voilà, il n'y a plus de peur.
Et encore une fois, là, c'est éviter la peur. Est-ce que c'est juste ? Je ne crois pas. Parce qu'encore une fois, cette peur, elle construit l'enfant et elle nous permet de se construire. Donc, retirer toutes les histoires de monstres, de loups, je ne suis pas sûre. Encore plus aujourd'hui, où il y a des très jolies histoires avec des loups, des monstres, qui sont plutôt même très sympathiques. Mais en tout cas, ça permet quand même de matérialiser quelque part leur imaginaire sur un livre. Ça permet d'extérioriser aussi, de se dire, ah, mais s'il y a une histoire, donc je ne suis peut-être pas tout seul aussi. Donc là, ça permet de décaler, en fait, de se dire, ah, mais on fait un pas de côté par rapport à la peur. Plutôt que de la regarder, d'être empreinte de cette peur, on fait un pas de côté, on la met un peu à distance. On peut l'observer. Et le parent peut en parler aussi. Parce que les histoires du loup, c'est en effet cette question du loup, qui est toujours méchant dans les histoires, bien souvent. Alors maintenant, il y a des histoires où il y a des loups très sympathiques. Mais ça peut être aussi intéressant de dire, mais tu sais, le loup, mais il vit dans la forêt. Le loup, c'est un animal, tu sais, il va pas t'attaquer. Hein. Les loups, si on les laisse tranquilles, ils viendront pas nous voir. Et de parler aussi de cette réalité du loup, en tout cas, puisque c'est souvent cette peur du loup, pour remettre dans un contexte réel, de réalité. Puis, a priori, on ne va pas en croiser dans la rue, dans les villes. Et puis de dire, bah, tu vois, les loups, ils habitent dans la forêt. En France, il y en a de nouveaux qui habitent dans tel coin, mais ils sont dans leur espace. Si on ne va pas les chercher, ils ne viendront pas nous voir. Enfin, voilà, ça, de remettre du réel aussi. Parce que l'imaginaire, justement, on peut aller très loin avec l'imaginaire, et donc le réel permet de se dire, en fait, oui, le loup, il ne va pas être là
chez moi.
Et que les monstres n'existent pas, en tout cas pas sous cette forme-là.
Oui, exactement.
Moi, j'ai même tendance à dire aux parents de lire au contraire.
Oui.
Et là, je pense à tous ces enfants qui jouent à avoir peur aussi. Ils ont besoin, voilà, que c'est vraiment important pour eux d'exorciser la peur et que le fait de lire plein d'histoires de loups ou de monstres, où il y a souvent des stratégies pour déjouer le loup ou le monstre, finalement, des choses qui vont les aider à traverser la peur.
Oui, j'ajouterais même le mot s'approprier, en fait, cette peur. C'est de plus avoir peur de sa peur aussi. Parce que c'est, parfois, c'est ce qui finit par se faire. Comme je ne sais pas comment elle fonctionne, je ne vais pas me sentir à l'aise avec ma peur. Donc, soit je vais la mettre de côté là, dans un placard, soit je vais la nier ou voilà, j'ai inventé moult choses pour ne pas la sentir. Alors qu'en fait, finalement, jouer à avoir peur, lire des histoires, mais en parlant, enfin voilà, ce qui permet de mettre un peu à distance, ça permet de se dire cette peur, en fait, je la connais, je sais la traverser. Finalement, c'est OK, quoi, ça va. Elle arrive, elle repart et je peux faire avec et je peux la dépasser. Donc ça, c'est... oui.
Dans ce que vous dites aussi, si, là, j'entends des parents qui me disaient, bon, on regarde sous le lit, dans les placards, et que ça devient voilà, tout un rituel parfois un peu long tous les soirs. Donc donner un sentiment de contrôle, mais peut-être pas en faire trop non plus. Ça pourrait être anxiogène aussi pour l'enfant.
Ça peut être anxiogène. Plutôt que d'aller vérifier dans les placards ou sous le lit, moi, j'inviterais plutôt à l'enfant à me décrire ce monstre. L'imaginer, il est comment là ton monstre sous le lit, il a quelle tête, il a des dents, enfin
on
voilà.
On peut le dessiner d'ailleurs.
On peut le dessiner tout à fait. Et après, le parent, plutôt que d'aller vérifier, c'est de montrer que lui dit « Non, bah, écoute-moi, les monstres, ce soir, ils n'ont pas leur place dans la chambre, là. Allez, oust, dehors. » Et plutôt de poser une posture de « J'ai cette force en moi pour les chasser », plutôt que d'aller vérifier, et des fois qu'ils pourraient revenir en plus, mais vraiment d'être plutôt dans cette posture de « J'ai cette force en moi pour les virer de ma chambre », ce qui donne beaucoup plus de force à l'enfant. C'est-à-dire, toi aussi, vire-les, là. Allez, oust, dehors.
Oui, et si on le dessine après la feuille,
on peut la déchirer, on peut pas la brûler, ou avec en présence d'un adulte. Mais en tout cas, la déchirer,
la froisser,
la jeter, enfin voilà. Et puis on peut même rajouter sur ce monstre qui devait être horrible un chapeau rigolo, un gros nez de clown, pour qu'il devienne ridicule en fait, et qu'on puisse en rire de ce monstre.
Ouais. C'est dédramatiser.
Dédramatiser, oui.
Dans les autres figures comme ça qui peuvent être effrayantes pour les enfants, il y a quand même la figure du Père Noël.
Oui. Oui, qui peut être très, très impressionnante.
Et des clowns aussi.
Et des clowns, oui. Ça, des clowns, oui. C'est, à la fois, c'est censé être drôle, mais...
Pas du tout.
Bizarrement.
C'est flippant.
Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les clowns. Pourtant, ils sont censés être drôles, mais pas tant que ça. Vraiment, respecter cette peur de l'enfant. C'est ne pas forcer l'enfant à aller dans les bras du Père Noël en lui disant « Mais si, vas-y, va sur ses genoux. » Parce que d'un côté, si je reviens à cette peur de l'inconnu, c'est on dit à nos enfants... attention aux inconnus, etc. Mais de l'autre côté, on va les inviter à aller vers ce Père Noël qu'ils ne connaissent pas, qui fait peur, et là, on va insister. Donc, il y a quelque chose aussi pour l'enfant qui peut être un peu troublant, de se dire « Mais moi, je ne le sens pas, ce monsieur, et on me dit qu'il y a des gens, machin, mais il faut quand même que j'y aille. » Donc là, c'est plutôt... Vous, adultes, vous pouvez aller voir ce Père Noël, discuter avec lui.
S'asseoir sur ses genoux.
S'asseoir sur ses genoux, par exemple, montrer
l'exemple. Ça fait rire, les enfants.
Voilà, montrer l'exemple, d'aller à cette rencontre, et puis après, de voir si l'enfant, lui, a l'envie de s'approcher de cette personne, d'aller à sa rencontre, et sinon, de ne pas insister. Il peut le regarder de loin, c'est bien aussi. Hein, c'est respecter son besoin, à ce moment-là, de sécurité, de ne pas aller vers cette personne. Mais on peut en parler aussi, comme une histoire. Encore une fois, c'est remettre dans un contexte et permettre à l'enfant, si vous respectez sa peur, j'ai peur de lui, bon bah tu vas pas le voir, mais moi adulte je peux aller voir ce Père Noël si j'ai envie. L'apprivoiser d'une certaine façon.
Bien sûr. Oui, il a l'importance de l'histoire et de... c'est vrai que pour les adultes, le Père Noël est quelqu'un de gentil dans la représentation.
Je dirais même plus, dans la représentation de l'adulte, il sait que derrière le Père Noël, c'est quelqu'un d'autre.
Oui, voilà. Et l'enfant, lui, n'a pas toutes ces représentations-là.
Non.
Dans la peur des animaux, alors souvent les grandes peurs, il y a voilà, une peur que vit votre fille Roxane, donc il y a d'un côté la peur des insectes, des choses volantes on va dire de manière générale, et puis de l'autre souvent quand même dans la peur des animaux, la première peur c'est la peur des chiens.
Oui. Alors les chiens, moi je fais aussi le parallèle avec la peur du loup, hein. C'est les loups, les chiens, ça reste...
Mais les chiens on en voit dans la rue.
Donc...
Et en même temps, ça les fascine
ça
aussi.
Ça les fascine, hein. Oui. Mmh. Et moi, je me remets toujours à la place d'un enfant en me disant, mais comment je réagirais si j'avais un chien à hauteur de mon visage, là? Est-ce que je réagirais de la même façon? Alors, je sais à peine marcher. Est-ce que je me sentirais aussi à l'aise d'avoir une gueule de chien à mon visage?
Bon, clairement pas.
Je suis pas sûre. Maintenant... Comment je l'appréhenderais, c'est déjà, est-ce que nous, adultes, et je trouvais que c'était important ce que vous disiez, Morgane, c'est comme, est-ce qu'on transmet des peurs à nos enfants? Et là, pour cette peur des chiens, par exemple, c'est, est-ce que moi, adulte, je me sens à l'aise avec les chiens? Comment je m'en approche? Est-ce que je me sens en confiance, en sécurité? Ce qui me semble important, c'est toujours d'accompagner l'enfant. C'est de, même un enfant qui spontanément a envie d'aller vers un chien, c'est déjà de prendre contact avec le maître de ce chien. Donc ça, c'est vraiment important de lui dire, attends, là, tu vérifies avec le maître de ce chien si tu peux le caresser. Une fois qu'on a vérifié, donc ça donne aussi la possibilité à l'enfant de se dire, ah, il faut demander la permission, et y compris au chien. Parce qu'encore une fois, un chien, bah, on se jette pas sur lui pour le caresser, c'est on vérifie aussi avec lui s'il est OK pour qu'on le caresse. Donc là, c'est de laisser aussi, que l'enfant puisse comprendre qu'il y a plusieurs temps d'entrée dans la relation. Et inversement, comment nous aussi adultes, on rentre... Avec un enfant, c'est peut-être aussi en plusieurs temps. Je vais à sa rencontre, je vais lui demander si je peux l'embrasser, etc.
Et pour les insectes, parce que les insectes, on peut l'entrer en relation, les oiseaux, les pigeons.
Oui, c'est ça, si on peut en rentrer. Les pigeons, c'est un peu plus compliqué, en général, ils s'en vont, ils s'envolent. Les insectes, alors moi, le constat quand même que je fais, c'est souvent cette répugnance, ou en tout cas cette peur des insectes, je vois souvent que c'est lié à celle des parents. C'est vraiment le constat que je peux faire. C'est, moi, ce que je vois, c'est que l'enfant, si on le laisse dans son monde, vous êtes dans la nature, l'enfant, il va aller voir les insectes. Il va aller les toucher, il va aller les observer de très près quand ils sont pas très grands. Hein. Et régulièrement, l'adulte va intervenir, en fait, en disant, touche pas, c'est sale, berque, c'est dangereux. Enfin,
vas te faire piquer.
Tu vas te faire piquer, etc. Alors que très spontanément, les enfants, ils ont cet élan de découverte, y compris des insectes. Donc, là, c'est... plus ils sont petits, et je crois que c'est vraiment les laisser faire. Bon, s'il les met dans la bouche, intervenir, c'est bienvenu. Mais en dehors de ça, laissez-les, les observer, les toucher, les bouger avec un bâton, pour que ça devienne quelque chose de connu et de se dire, mais c'est pas dangereux. Et après, c'est quand ils sont un peu plus grands, ça peut être intéressant. Donc là aussi, ça nous renvoie à notre peur, notre répugnance, éventuellement, par exemple, les araignées. Est-ce que quand je vois une araignée, je vais hurler en montant sur mon fauteuil, ou est-ce que je vais pouvoir dire à l'enfant, regarde comme elle est belle, elle est magnifique, et d'aller m'approcher pour l'observer en train de tisser sa toile éventuellement, ou dans sa toile, enfin voilà, d'être dans cet émerveillement aussi, ce qui fait que derrière l'enfant, il va être aussi dans cet émerveillement, il va se dire, bah oui, non, c'est qu'une araignée, et de dire à quoi servent les insectes. C'est pareil, revenir dans la réalité, un insecte, une araignée, elle vit à tel endroit, elle sert à ça, elle permet de se nourrir de certains insectes volants, enfin voilà, c'est de parler aussi de, j'ai envie de dire, de l'écosystème. Et l'enfant, à ce moment-là, il va se dire, bah oui, ça fait partie d'un tout, et donc ça a sa place.
Une autre peur assez commune, c'est la peur des médecins, des vaccins, des piqûres.
Oui.
Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut
entendre.
Entendre beaucoup.
Oui. Cette question autour des médecins, c'est comment on en parle, nous, adultes? Comment nous aussi, on se sent avec un médecin, c'est est-ce que ce médecin, il prend le temps avec l'enfant? Ou est-ce qu'il va vite, vite, vite? Ce qui fait que l'enfant, on en revient à ce besoin de s'acclimater, de faire connaissance. Et l'enfant, il a besoin aussi de sentir, bah là, tu vas t'occuper de moi, est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que tout d'un coup, vite, 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 faut que tu déshabilles, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Donc c'est, dans la mesure du possible, c'est... verbalisez-vous en tant qu'adulte auprès du médecin en disant de prendre le temps, c'est d'en parler avec votre enfant, de lui dire à quoi ça sert un médecin, il est là pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire là dans ta vie, bah, tu es malade, là il a besoin de vérifier. Dans la mesure du possible, de demander toujours l'autorisation à l'enfant, enfin vraiment de l'inviter à être acteur plutôt que d'être passif, genre ouvre la bouche, bah, là tu vois, il a besoin de vérifier ta gorge, donc ce serait là, je t'invite à ouvrir ta bouche pour qu'il regarde à l'intérieur, pour qu'on puisse trouver ce qui se passe pour toi et qu'on puisse t'aider, etc. Mais en tout cas, de pas hésiter à mettre des mots, ne pas minimiser non plus les choses, parce que ça va être de dire non mais ça fait rien, et qu'en fait la douleur, elle va être là, l'enfant il va dire ah non mais plus jamais.
On m'a menti.
On m'a dit que ça faisait pas mal, et pourtant ça fait super mal. Ben moi c'est fini là, je coupe. Donc c'est
donc d'être honnête.
Être honnête quelque part. Après c'est pas de grossir le trait en disant tu vas voir, tu vas souffrir, ça c'est pas du tout ça, mais vraiment de dire voilà, bah là ça risque de te faire une petite sensation, ça risque tu peux avoir mal et en même temps il y a des produits qui font que on peut ne pas avoir mal et la douleur elle est là aussi elle a aussi sa fonction. Donc c'est pas de dire qu'il faut pas toujours avoir mal, mais en tout cas de mettre une fonction aussi dans ce qu'on peut ressentir dans notre corps, etc. Et je repensais par rapport aux blessures, si je me permets, la Morgane. Donc il y a cette question aussi de la douleur, d'avoir mal. Et moi, je trouve que les enfants, quand on leur explique à quoi ça sert le sang, à quoi ça sert le sang ? Parce qu'au final, ils voient qu'il s'est fait mal, ça saigne. Alors, c'est pareil, ça sert à quoi le sang ? C'est pas à quoi ça sert, ça fait peur, ça coule, c'est comme ça. Et donc là, c'est de dire, mais le sang, c'est ce qui permet d'apporter ce qu'il faut pour fermer le trou, en fait. Donc c'est ton corps qui réagit, qui fait ce qu'il faut pour que ta blessure, là, elle se cicatrise. Donc c'est tout d'un coup, le sang, il est moins paniquant parce que c'est une fonction, encore une fois. Donc je remets du sang et l'enfant, il va le vivre différemment, ce sang. Plutôt qu'un truc qui sort de son corps, qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est très angoissant. Les dentistes, je pensais aux dentistes aussi, d'expliquer, voilà... Pareil, parce qu'il y a des bruits aussi, les dentistes. Hein,
Roulette.
Ouais, c'est ça. Puis même en tant qu'adulte, on peut toujours se dire, oh là là, comment moi je me sens quand je vais chez le dentiste ? Est-ce que je me sens très détendue ou est-ce que pas toujours très à l'aise ? Donc voilà, mais d'expliquer les choses permet à l'enfant de comprendre. Donc il y avait un dentiste que je trouvais très, très juste dans sa façon de faire, qui montrait à l'enfant, qui expliquait chaque objet. Donc ça, c'est la roulette, regarde, ça fait tel bruit, regarde ce que ça fait sur ton doigt, ça, c'est le pchit, je sais pas quoi, etc. Et donc, donner à l'enfant chaque explication pour chaque outil qu'il allait utiliser, en fait, dans sa bouche. Et ce qui fait que derrière, l'enfant, bah, il sait à quoi ça sert, il sait à quoi ça correspond. Et donc, il va vivre différemment l'expérience que quelque chose qu'on lui met dans la bouche sans savoir ce que c'est, en fait.
Bien sûr. Ok, et puis une dernière peur voilà, assez commune, la peur de la mort.
Vaste question. Une très vaste question, la peur de la mort. Vous avez partagé, Morgane, la façon dont vous aviez de parler de la mort dans votre famille, ce qui était, moi, ce que je trouve très joli, où cette question de la mort, en fait, c'est un sujet comme un autre. Ça fait partie de la vie. Et ce qui est important, c'est que l'enfant puisse en parler, poser ses questions, ses interrogations, qu'ils soient accueillis et entendus sans qu'on la nie, sans qu'on l'évite. Mais c'est, je sens, moi, le malaise que nous, adultes, on peut avoir vis-à-vis de cette question. Et ce malaise, finalement, c'est le fait qu'on n'en parle pas, le fait que ça donne l'impression que ça n'existe pas. En fait, ça génère quelque chose qui est là, mais sans être là. Et on va le mettre de côté, on va le nier. Alors, je pense à certaines personnes, pour éviter le chagrin de leur enfant, etc., qui vont racheter un poisson rouge, parce que le poisson est mort, qui vont changer le hamster, etc. Et là, c'est empêcher l'enfant de faire l'expérience, en fait, du deuil, de la mort,
de
la perte. Et que l'enfant, finalement, s'il ne vit pas toutes ces choses, en fait, il ne peut pas l'apprivoiser. Et si nous, adultes, on remplace en pensant bien faire, encore une fois, ça reste un sentiment, j'ai envie de dire, louable de ces parents qui font ces choses-là, mais l'enfant, lui, ce qu'il va intégrer, parce que l'enfant, il voit bien que ce n'est pas tout à fait le même animal, hein, lui, ce qu'il va intégrer, c'est que ça, c'est quelque chose d'horrible et on ne doit pas en parler. Donc, ça va devenir un non-sujet, mais avec tout ce que je peux mettre à l'intérieur, puisque je ne peux pas en parler, ben, je vais mettre toutes mes angoisses et je vais en rajouter. Après, je ne vais pas pouvoir me représenter, en fait, ce que ça peut être. Vous pouvez parler, pour la peur de la mort, du cycle de la vie, des saisons. Pour chaque année, ben, voilà, les saisons, c'est y a le printemps, il y a l'été... L'automne, c'est rentrer dans la mort, et l'hiver, c'est là où tout est mort d'une certaine façon. Et donc, c'est montrer à l'enfant de lui dire, mais tu vois, là, l'hiver, voilà, il y a, j'ai envie de dire, les feuilles sont mortes, les feuilles vont apporter plein de choses, on va dire, à la terre, qui va permettre qu'au printemps, eh bien, il y a les choses qui repoussent. Donc, c'est remettre dans un cycle, dans quelque chose du cycle, c'est de s'interroger, bien évidemment, soit quel est notre rapport à la mort et comment on définit la mort aussi pour nous, en tant qu'adultes, pour pouvoir vraiment entendre les questions de son enfant, les accueillir sans être dans une panique totale, en fait. Parce que l'enfant, c'est ça qui capte souvent autour de la mort, c'est je sens la panique chez l'adulte, et donc je me dis que ça doit être un truc horrible et affreux. Et si ce sujet aussi génère beaucoup d'émotions, bienvenue. Hein, c'est si y a des émotions qui arrivent quand on parle de la mort parce que ça nous fait penser à quelque chose de notre expérience, on peut dire à son enfant, oui, la mort, il peut y avoir de la tristesse, mais c'est OK aussi. Et,
Oui, là, ça m'évoque peut-être l'importance de parler de ses propres peurs.
Exactement.
Voilà. Oui. De partager ses peurs avec son enfant, c'est aussi une manière de lui dire qu'il n'est pas seul, que nous aussi, voilà, en tant qu'adultes, et comme vous disiez aussi, Morgane, on a aussi des peurs en tant qu'adultes.
Oui.
C'est pas que les enfants qui ont peur.
Exactement, oui. On a... Et... En parler, partager et lui dire, voilà, moi j'ai... Bon, on peut lui partager ce qu'on a pu trouver comme ressources et lui dire, mais toi, je sais que tu as les ressources, tu peux trouver des idées, on peut ensemble trouver des idées pour t'aider là-dessus, voilà, qu'il puisse, encore une fois, se réapproprier la situation et avoir la maîtrise de ce qui se passe pour lui et de son environnement. Donc ça, c'est vraiment la base. Et nous, adultes, hein, interrogeons-nous vraiment sur notre... quand on a peur, là, dans notre vie de tous les jours, de dire, mais moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ma peur, qu'est-ce que j'en fais, et de se dire, bah, le fait de savoir que je peux agir dessus, en général, ça fait baisser quelque chose. Donc l'enfant, si on lui retire cette possibilité d'agir dessus, bah, lui, il va se dire, mon Dieu, mais alors soit je ne peux pas me débrouiller tout seul, donc il va toujours être à rechercher l'aide de quelqu'un, mais si on lui... dit, mais toi, je sais que tu peux trouver quelque chose. L'enfant, il va pouvoir se dire, ah oui, plus tard, et puis il va gérer comme ça. S'il a une autre peur, il va se dire, ah non, mais la dernière fois, j'ai fait ça, hop, et puis je vais essayer autrement.
Oui, c'est le danger un peu de la surprotection, c'est ce que vous nous disiez, Morgane, finalement, que ça induit, ça va renforcer finalement ou accentuer la peur. Et là, on se retrouve dans un cercle un peu vicieux, quoi.
Tout à fait,
finalement, de favoriser l'autonomie, de renforcer la confiance, le courage, valoriser le courage de l'enfant, voilà, c'est quelque chose qui va l'aider à dépasser, en tout cas à traverser la peur, à l'apprivoiser, comme vous disiez, Aurélie.
Et vous parlez du courage, et le courage, c'est pas l'absence de peur. Hein, c'est souvent, on imagine les chevaliers dans les histoires d'enfants qui sont courageux, etc. Et il n'y a pas ce côté, ils ont quand même peur. Ça peut être intéressant de dire, mais tu vois, à mon avis, ton chevalier dans son armure, je pense qu'au début, il doit être un peu, wouhou, ça doit pas être très agréable pour lui, mais en même temps, il y va quand même. Il y va quand même et il finit par réussir, etc. Mais de vraiment dire, tu sais, courageux, c'est aussi avoir peur. C'est prendre en compte sa peur, mais c'est la dépasser et c'est aller de l'avant. C'est pas la nier ou faire comme si on n'avait pas peur. Parce que c'est aussi le comme si j'ai pas peur, vous disiez Arthur, qui n'a peur de rien. Peut-être qu'il se sent à l'aise avec beaucoup de choses. Mais en tout cas, le même pas peur, ça peut être à double tranchant. C'est, le même pas peur, souvent, c'est bah, je me coupe de ce que je ressens et je ne tiens pas compte de mon émotion. Donc ça, c'est juste à mettre ça dans un coin de sa tête pour que l'enfant, quand il dit même pas peur, ça peut être de lui dire, mais moi, je sais, avoir peur, ça fait partie de la vie et c'est OK, quoi.
C'est pas grave.
C'est OK.
Et qu'on peut être très fort, avoir peur, être triste, vivre plein d'émotions, et être très fort et très courageux.
Tout à fait, parce que les émotions, encore une fois, c'est la vie.
Comme vous nous l'avez bien dit, Aurélie, hein, les peurs font partie du développement de l'enfant. Elles sont normales, nécessaires, voire indispensables.
Complètement.
À les accueillir, à leur donner, voilà, leur donner de la place est très important. Apprendre à accueillir, à gérer ses propres peurs en tant que parent pour pouvoir accompagner son enfant sans dramatiser ni banaliser, trouver le juste équilibre.
Exactement.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Morgane, est-ce que vous avez lu des choses sur la question de ces des peurs pour accompagner vos enfants ou est-ce que vous vous souvenez d'un livre que vous aviez acheté pour vos enfants
Pour les petits, oui. J'ai dû lire 100 fois Cajoline, Dodo dans son lit. Au lit, Petit monstre. En fait, en fouinant dans les librairies, sur le moment, on se dit, tiens, ça va le faire, ça va m'aider. Et on revient avec la maison avec et on le lit 50 fois. Et puis, une fois que c'est fini, on l'oublie et puis la peur est passée.
Aurélie, est-ce que vous auriez des lectures à nous recommander?
Oui, alors j'ai des lectures et j'ai aussi une vidéo que je trouve assez intéressante quand on parlait de la peur des inconnus. Ça s'appelle « Mon corps, c'est mon corps et ce n'est pas le tien ». Que je trouve très intéressante. Alors, je vous invite à la regarder, vous, adultes, une première fois de votre côté pour vous familiariser avec. Et après, la regarder avec votre enfant et de pouvoir interagir avec lui autour de cette question. Ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est on est vraiment sur focalisée sur se faire confiance. Donc, c'est qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça me fait oui à l'intérieur ? Est-ce que ça me fait non à l'intérieur ? Donc, il y a plusieurs questions à se poser pour ne plus être dans cette peur de se dire tout le monde peut être méchant, mais plutôt de se dire, bah, les gens sont là, maintenant, moi, je peux me faire confiance et je sais que je peux réagir s'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc, cette vidéo est très intéressante et de pouvoir en parler avec son enfant, c'est de pouvoir débattre autour de cette question des inconnus, mais c'est voilà, pour n'importe quelle situation. Après, il y a un livre de Stéphane Garber qui s'appelle « Les peurs de votre enfant, comment les aider à les vaincre », qui est assez bien fait. Après, je reviens sur Isabelle Filioza, qui donne pas mal de pistes. Elle a fait un cahier
sur la peur,
sur chaque émotion, mais elle en a fait un sur la peur. Donc, c'est pareil là pour l'enfant de l'apprivoiser, de revenir aussi sur le livre d'Isabelle Filioza, Au cœur des émotions de l'enfant. Pareil, il y a tout ce passage sur la peur, à quoi elle peut être utile, en tout cas.
Sur les peurs médicales, il y a le site Sparadra, qui explique les piqûres, les vaccins, s'il y a une intervention médicale, comment accompagner. Comment accompagner son enfant. Et puis les livres pour enfants, il y en a. Le livre qui a peur, Mes petites peurs, Le crocodile qui avait peur de l'eau, J'aime mes cauchemars, Gros cornichon, Au dodo les monstres, Salut la peur. Il y en a tellement.
Et des pépites, c'est sublime ce qu'ils font aujourd'hui.
Et comme vous disiez, Morgane, de trouver le livre, de se laisser en tant que parent un peu de temps pour lire le livre avant et pour pouvoir choisir un peu plus finement en fonction de ce que vit. Plus spécifiquement son enfant. Et puis il y a le film, Vice Versa.
Une merveille, celui-là, à voir, à revoir, à re-revoir, et à le voir en famille.
Parler des émotions.
Parler des émotions, qui remet vraiment avec magnifiquement bien, et dans la justesse de chaque émotion, combien elle a sa place, combien il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, et combien elles sont toutes nécessaires. Et ce film est vraiment une merveille à regarder.
Merci beaucoup, Morgane, d'être venue partager avec nous les peurs de vos enfants, et vos peurs aussi.
Merci à vous.
Merci beaucoup Aurélie Roca pour tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et que vous travaillez à Puteaux.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.